no Jedi.
The wind's on our side, boys. That's all we need.
Spider-Man died!
Neither can I!
See you, Space Cowboy!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graphic Saga pour ce nouveau Movie Dump avec Frame. Comment ça va?
Bonjour, bah ça va très bien et toi?
Bah oui, ça va, ça va. On arrive un peu à la bourre de ce qu'on voulait faire parce que tu es parti à l'aventure.
À New York.
À New York.
Voir Dune, justement.
Revoir Dune. Et donc, en parlant de Dune, voilà, on le fait un peu en retard au mois de mars, parce qu'on n'avait pas pris l'ornithoptère en marche. Ouais. Ensuite, on va se mettre à table avec Vampire humaniste cherche suicidaire consentant de Ariane Louis XVI. Et on finira par un arrêt dans la vallée de la paix pour Kung Fu Panda 4, malheureusement. Le ton est donné.
Le spoil.
Mais avant de commencer, tout de suite, on va faire un petit retour sur la dernière cérémonie des Oscars.
Effectivement, parce que les Oscars, c'était le 10-11 mars dernier, enfin en gros dans la nuit du 10 au 11. Il y a eu pas vraiment des surprises. En vrai, on n'est pas si déçus que ça la soirée. Enfin, je veux dire, on s'y attendait. Évidemment, le grand gagnant de la soirée, vous l'avez tous vu, je pense, c'est Oppenheimer. Oppenheimer qui a quand même chopé 7 Oscars.
D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé au Japon par rapport à ça?
Non. Ah, mais si,
parce
il
que,
sort
coup,
le
eux,
film.
Ils viennent de l'avoir. Et en fait, ça a été un espèce de grande déception médiatique au Japon, le fait qu'Oppenheimer gagne un Oscar, en fait.
D'accord. Mais d'ailleurs, je trouvais ça justement marrant de se dire que c'est la même année où, aux Oscars, donc, on a deux films japonais qui gagnent des Oscars, plus
un film sur la bombe atomique.
Voilà, c'est ça. Un film qui est plutôt anti-japonais, tu vois.
Oui.
Du coup, c'est assez drôle. Donc ouais, c'est le grand gagnant avec meilleur film, meilleure réalisation, pas mal d'Oscars techniques, dont meilleur montage. Moi, perso, je trouve que c'est un scandale. Mais après, voilà.
Oui, il y a beaucoup de choses que je trouve que c'est un scandale.
Non, mais bien sûr. Mais...
Pour le calme de nos oreilles, je vais me taire.
Non, mais bien sûr, mais moi, en tant que monteur, enfin, en tout cas, c'est ma profession dans la vie, ça me fait mal, vraiment. Parce que la première heure, pour moi, elle est charcutée et genre, enfin, c'est une bande-annonce, quoi. Donc, ça me fait un peu mal, vu comment c'est irrégulier. Mais bon, voilà.
Christophe Teaser Nolan.
Ouais, voilà. ça. Et après, évidemment, il y a eu meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr. Voilà, ça, c'est pour les trucs principaux. Mais nous, on est surtout très contents, puisque il y a eu 4 Oscars pour Pauvre Créature.
Ouais.
Pauvre Créature, dont meilleure actrice pour Emma Stone.
Méritée.
Franchement, méritée. Alors, même si moi, je pensais vraiment que Lily Gladstone allait avoir son Oscar.
Ça me fait un peu de la peine pour Lily Gladstone, ceci dit, parce qu'elle a fait un vraiment super taf dans Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese. Mais bon, Emma Stone aussi a fait une super performance, donc voilà.
Moi, je suis très content pour elle parce qu'à mon avis, c'est mérité. Mais effectivement, je suis un peu déçu pour Lily Gladstone. Enfin, je pense que ça devait être son année, entre guillemets, tu vois. Mais en même temps, c'est plus mérité, je pense, carrément que La La Land, tu vois, cet Oscar-là. Donc, au final, c'est assez logique. Enfin, c'est dans un... Donc, c'est cool, quoi. À côté de ça, il a quand même eu meilleur costume, meilleur maquillage, meilleure direction artistique. meilleure direction artistique. En soi, c'est assez logique et franchement, je suis assez content. Sinon, pour faire un petit tour, ce qui est très cool, justement, on parlait de cinéma japonais, il y a eu meilleur film animé pour justement Le Garçon et le Héron. Moi, j'avoue que j'aurais préféré peut-être que ce soit le Spider-Man, mais bon, voilà.
Spider-Man, ils vont se refaire avec le troisième,
ouais,
je pense.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais... Et puis, c'est pas étonnant, il y a eu un Miyazaki, il devait gagner, voilà.
Je suis quand même, assez refroidi là-dessus que c'est Le Garçon et le Héron,
oui, c'est
qui
ça,
prennent un Oscar alors que sur tous les autres films qu'a fait Miyazaki,
clairement,
tu vois.
Bah, ça faisait depuis Chihiro qu'il avait fait le Oscar.
Je sais que maintenant, à cet épisode jamais sorti suite à des problèmes techniques sur Le Garçon et le Héron.
Oui, le fameux.
Nous, on n'a pas aimé, pas trop.
Enfin, non, on n'a pas
trop. Moi, je suis celui qui a le plus aimé Le Garçon et le Héron, mais je le défends pas non plus à corps et âme. Mais j'ai vu quand même qu'il a eu, c'est quand même un succès public assez fou. Je trouve que c'est un Miyazaki très, très brouillon quand même.
Assez inégal, etc.
C'est assez inégal,
c'est dommage.
Il y a des belles choses dedans,
oui,
voilà,
et
bien
même
sûr.
Même en termes d'animation aussi, on en parlait dans le podcast qui n'est pas sorti du coup, que même en termes d'animation, il y a des trucs absolument fabuleux, typiquement le feu au début.
Ouais, puis des fois on dort.
Mais d'autres fois, c'est compliqué quoi. Donc, voilà. Mais du coup, ça fait quand même plaisir pour Miyazaki, même si ça aurait été pas notre choix premier. Par contre, ce qui est très cool, c'est pour Godzilla Minus One qui, lui, a meilleur effet spéciaux. Et franchement, c'est mérité, hein, honnêtement. Mais alors vraiment, c'est inattendu de ma part, parce que vraiment, j'étais en mode, bah, en face, il y a du Disney, notamment avec les Gardiens de la Galaxie. Même, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait dans la catégorie, mais ah, c'est surtout qu'en fait, au moins, ça prouve que voilà, les succès aux États-Unis, parfois, bon, bah, ça mène à avoir des Oscars, même improbables. Et pour le coup, c'est très cool pour eux.
Ouais, c'est surtout que notamment, ce Godzilla, du coup, on l'avait déjà mentionné quand on en avait parlé dans l'épisode, dans le premier Voyump, il est à l'économie en termes d'effets spéciaux, en termes de budget. Même si on doute bien qu'il y a des Japonais qui n'ont pas dû voir leur famille pendant plusieurs
fois. Ça a dû crunch très très fort.
Voilà. Mais oui, ça fait relativiser et voir d'un œil vraiment très critique l'utilisation de l'argent pour les blockbusters, ouais, notamment les Marvel.
Oui,
notamment
oui.
Les Marvel, c'est sur le monde de fond, quoi.
Totalement, totalement. Mais par contre, c'était, voilà, ça a amené l'image la plus cute de la soirée. Eux, ils sont montés sur scène avec leur petit Godzilla chacun dans leurs mains.
Mais même nous, en fait, tu vois, je me dis, si avec ça, ils arrivent à faire un Godzilla, alors bien sûr, très japonais, voilà, et mm-hmm. tout. Nous, au cinéma, en France,
ouais, on peut,
les budgets qui sont consacrés à des Danny Boonry et ouais, des trucs comme ça.
C'est 20 millions, quoi. C'est plus que le Godzilla.
C'est plus que le Godzilla, tu fais, c'est fou.
Non,
je
ne parle
pas en France de faire du Godzilla, mais on a eu des belles propositions comme Vermine, par
oui,
exemple.
Bien sûr, bien sûr.
Et je veux dire qu'on pourrait optimiser ça, quoi.
Et totalement, totalement. Et après, bah, voilà, donc, moi, dans les choses où je suis assez content, il y a aussi la zone d'intérêt, qui a eu deux Oscars, meilleur film international, mérité à 100%, et meilleur son, improbable de ouf, ouais. Mais tant mieux, parce que vu le travail qu'il y a dessus, c'est trop cool. Et aussi, évidemment, bah, moi, j'avoue, je suis assez déçu qu'il en ait qu'un, mais Anatomie d'une chute, très grand film de l'année dernière, qui a eu meilleur scénario original. J'avoue que bon, moi j'espérais meilleur film ou meilleure réalisation, mais voilà, j'étais pas dupe, je me doutais bien que ça allait être l'année de Nolan, et voilà, c'est arrivé.
Oui, au moins il a pas eu le César.
C'est ça, c'est ça. Il a été battu par Monia Choukri, let's go. Et alors, par contre, moi personnellement, je trouve que la grosse surprise, c'est meilleur scénario adapté pour American Fiction. Alors, même si en soi c'est
Il est calibré pour,
oui, mais ouais. Il y avait quand même Oppenheimer dans la catégorie. Et Oppenheimer qui a raflé tout à côté, tu vois, j'étais un peu en mode, ok, bon, bah,
c'est vraiment le choix académique de, bon, la communauté afro n'a
oui,
rien eu sur ces Oscars.
Un peu ça, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, bah, Killer of the Flower Moon n'a rien eu du tout.
Ce qui est assez terrible, je trouve, par contre.
Ce qui, franchement, ouais. Surtout, moi, j'aurais pensé.
Bah, scénario adapté, j'aurais bien vu Killer of the Flower
Moon. Ouais, mais sinon, j'aurais bien vu photographie ou même montage, tu vois, des choses assez classiques et qui auraient.
La photo, c'est vrai qu'elle déglingue hein, sur
bah,
Killer of the Flower Moon.
C'est ça, donc bon. Bah, écoutez,
on va pas dire que Scorsese sait faire des films, quoi. On va pas...
ouais. C'est... Et aussi, alors ça, je m'en suis aperçu après. C'est le premier Oscar pour Wes Anderson. Je sais pas si tu savais. C'est son tout premier Oscar qu'il a, il l'a eu pour La merveilleuse histoire de Henry Sugar.
J'ai dormi devant ça. Donc,
ouais, c'était pas
désolé,
incroyable. On l'a vu ensemble, justement.
j'ai vraiment strictement. Je me suis endormi au bout de 20 minutes.
Moi,
quoi.
Je trouve qu'en termes d'esthétique et tout, on retrouve vraiment. Oui. Le charme dans son cinéma, donc voilà. Mais c'est assez étonnant que ce soit son tout premier Oscar, et du coup c'était le meilleur Oscar, enfin meilleur court métrage de fiction. Quoi.
C'est marrant qu'il ait un Oscar sur un court métrage alors qu'il a fait la même année, il a fait comme Asteroid City.
C'est ça, c'est fou, c'est fou. Donc voilà. Donc en soi, moi j'ai pas été vraiment déçu de la soirée. Sinon après, on va dire politiquement, etc. Il y a pas eu vraiment de prise de parole. Il y a eu quelques choses. Voilà, il y a eu quelques trucs. Pareil, bah, je crois, non c'est ouais, Jonathan Glazer, mais je crois qu'il y avait une autre personne, mais voilà, c'était assez bref, mais au moins, il n'y a pas eu de moments vraiment gênants, de petites blagues un peu déplacées, etc. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez cool. Voilà, j'ai trouvé que la cérémonie, elle se regardait bien, j'ai passé un bon moment. C'est pas la grande soirée, il n'y avait pas des grosses surprises, mais bon, au moins, il n'y avait pas des mauvaises surprises non plus.
J'ai Mark Ruffalo qui a fait une petite entrée assez marrante aussi.
Oui, effectivement.
Il était bien
effectivement.
Motivé, Mark Ruffalo. Il a l'air d'être cool, Mark Ruffalo.
Exactement. D'ailleurs, il aurait pu avoir son Oscar. Ça aurait été plus mérité. Mais bon.
C'est vrai que là, sur Poor Things, c'est très cool de voir quelqu'un qui a un aussi bon feedback que Mark Ruffalo jouer une ordure pareille.
Totalement, totalement.
On en avait déjà parlé, mais j'aurais bien vu avoir une récompense quand même.
Ouais, mais bon, malheureusement, Robert Downey Jr., c'était évident qu'il allait avoir l'Oscar à la place.
Bien sûr. Merci pour le petit retour sur les Oscars, du coup.
Avec plaisir.
Et là, on va s'attaquer, du coup, au gros morceau de la journée. On va s'attaquer à Dune Part 2. De Denis Villeneuve. Johnny, do you believe in me? Paul Atreides is still alive. Deal with this prophet. Show me who you are. Your father.
was a weak man.
Alors Dune, c'est la deuxième partie de, pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, de la première partie de Denis Villeneuve qui s'attaque à l'Arlésienne Dune tentée par David Lynch déjà, qui avait été aussi tentée par.
Il y avait deux séries.
Deux séries aussi, oui. Dune qui du coup par contre adapte les enfants okay. de Dune et je crois, pas de bêtises, Dune Messiah. Du coup on suit pas Paul, on suit Leto qui viendra plus tard si on a des films, on verra ça. Mais aussi par l'Arlésienne de Jodorowsky qui lui ne verra jamais le jour mais qui permettra de faire plein de films très sympas comme Alien par exemple, tout ça. Donc deuxième partie où on retrouve Paul Atreides, alors que bah, du coup petit résumé du premier film, alors que sa famille prend le contrôle d'Arrakis, mais il se retrouve confronté à des intrigues politiques et à des rivalités commerciales avec la famille des Harkonnen. Paul découvre qu'il est lié à une prophétie ancienne et il va prendre le chemin pour devenir un leader charismatique et messianique, capable de prédire l'avenir et de mener entre guillemets une rébellion contre l'Empire et la saga, enfin la maison des Harkonnen. Donc, avant de parler du film vraiment en tant que tel, toi, je pense que tu as un peu aimé le film.
Moi, j'ai adoré le film. Déjà, il faut savoir que j'ai eu la chance de le voir, j'en avais parlé, je crois, dans le dernier podcast à la fin, mais j'ai eu la chance de le voir au Grand Rex. Donc, bah, forcément, il y avait la hype du truc, c'était deux semaines en avance. La liesse
populaire.
Voilà. C'était avec les acteurs, avec Denis Villeneuve, effectivement, enfin, aussi. Donc, oui, la hype était là. Moi, j'avais déjà adoré le premier film, mais j'avoue, je ne m'en souvenais pas très bien, mais j'avais eu la chance de le revoir juste avant, puisqu'il y a eu une ressortie en début de mois. Et ça m'a bien servi, parce que bah, l'intrigue... Moi, je n'ai pas lu les bouquins. On verra que toi, c'est le cas, mais voilà. Moi, je n'ai pas lu les bouquins, donc du coup, moi, j'avais vraiment que le souvenir d'une première partie, en sachant que j'ai quand même rattrapé celui de Lynch entre les deux. Donc, globalement, je savais ce qui allait se passer puisque Lynch cumule les deux.
C'est un speedrun, Lynch.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en gros, il cumule les deux films, mais en version rush, quoi.
Ouais, il a... Pour faire un petit aparté dessus, t'en penses quoi du Dune de Lynch?
Alors, je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais effectivement, je trouve qu'il est rushé. Je trouve qu'il y a un esthétique bah, particulier de Lynch qui, par instant, fonctionne, mais par instant, bah, c'est presque trop bizarre pour être bizarre, tu vois.
C'est trop onirique.
C'est ça. Mais par contre, je trouve que, tu vois, la scène avec la main dans la boîte, elle marche mieux que celle chez Villeneuve. Donc, il y a quelques trucs comme ça qui sont mieux. Mais alors, bah, voilà, je vais parler du 2 et dire que clairement, j'ai adoré le 2. Bah, typiquement, la scène du verre, je la trouve mille fois mieux dans celui-là que dans le Lynch, tu vois.
Bien sûr.
Parce que là, il y a un vrai... En fait, ça accepte le côté divertissement, le côté grandiose, etc. Sans non plus tomber dans la surenchère du découpage, etc. En fait, ça reste du blockbuster, on va dire, autorisant, on va pas se mentir, hein, c'est très clairement ce que c'est. Mmh. Mais je trouve que ça embrasse le grandiose, ce que fait pas du tout le Lynch, tu vois. Le Lynch veut rester weird pour être weird, tu vois. C'est pas forcément une critique, parce que c'est ça.
Bouclier en polygone, là.
Ouais, voilà. C'est pas forcément une critique, parce que c'est la volonté du truc. Mais je pense que c'est pas la meilleure façon d'avoir adapté la chose, même si, encore une fois, j'ai pas lu les bouquins, mais juste, moi... Dans la vision que j'ai de la SF, bah, je préfère bien plus la vision que nous propose Villeneuve que Lynch, quoi. Okay. Voilà. Mais du coup, pour revenir sur Dune partie 2, typiquement, je dirais que c'est la même chose que le 1, mais tout est mieux, à part peut-être l'esthétique qui va un peu moins loin. Il y a toujours de très beaux plans, etc. Mais le premier, et c'était aussi une critique pour certains, a un peu ce côté pub pour parfum. C'est-à-dire que c'est très... Bah, on dirait la pub Dior J'adore, quoi. Enfin, vraiment, c'est ça. Moi, ça me plaît beaucoup, mais je sais que ça peut gêner, je comprends totalement. Du coup, bah, le 2 a moins ce côté-là, donc si d'ailleurs ça vous gêne, voilà. Mais par contre, sur tous les autres points, le film est absolument incroyable de mon point de vue. Vraiment, je trouve, en termes d'écriture, bah, là où peut-être que le premier, bah, tu peux pas tout comprendre. Bah en fait, t'as besoin d'avoir vu le premier pour que ça soit limpide par la suite. En gros, il y a des choses qui sont amenées dans le premier, bah, qui sont obligatoires pour le 2. Mais même des petits détails qui ont l'air d'être un détail, mais typiquement les boucliers, bon bah finalement, là, on n'y prête plus vraiment attention. Mais si t'as jamais vu le premier, tu comprends pas pourquoi il y a des sortes d'halos bleus sur eux quand ils se font attaquer, tu vois. C'est plein de petits détails comme ça, mais qui créent l'univers. Et du coup, de ce point de vue-là, je trouve que le 2 arrive pleinement à développer le côté justement bah, prophète, messie, etc., tout en gardant bah, le développement de des différents on va dire des différentes maisons, que ce soit les Harkonnen, on passe plus de temps avec eux d'ailleurs que dans le premier. On développe évidemment les Fremen, on n'en a pas parlé depuis le début des Fremen, mais ils sont beaucoup plus présents, c'est même eux qui sont au centre de l'histoire, quoi. Et donc du coup j'ai trouvé ça vachement bien, et je trouve qu'il y a un peu un côté Game of Thrones qui se déploie, dans le sens où justement déjà dans le premier on développait plus la maison Atreides et un peu la maison Harkonnen, là on développe beaucoup plus les Harkonnen et les Fremen, et j'aime bien ce côté-là d'ajouter des acteurs dans cette guerre, on va dire, intergalactique, quoi. Au fur et à mesure, parce que ça fait grandir l'univers sans pour autant plomber le spectateur en mode il y a un million de personnages et il y a du drop name à tout va. Bon, même si oui, c'est le cas parce qu'il y a beaucoup de personnages et il faut les introduire.
Quand ils en ont enlevé, hein.
Voilà, oui, typiquement, oui, et même ils ont adapté notamment sa sœur différemment. Je sais que normalement, typiquement dans le Lynch, on voit sa sœur
Encore, Lynch a encore accéléré les choses parce que.
Non, mais bien sûr, mais tu vois, sa sœur est née dans celui de Lynch, tandis que là, c'est pas le cas. Donc voilà, il y a des façons d'adapter les choses et tout. Moi, je parle en tant que personne qui connaît pas du tout l'univers. Franchement, j'ai adoré. Et vraiment, pour moi, ça devient une des plus grandes sagas adaptées au cinéma de tous les temps en termes de SF. Enfin, pas forcément la plus grande, hein, évidemment. Mais vraiment, c'est, je pense, un truc que dans 20 ans, on considérera comme un classique facile vraiment à voir, quoi. Et j'attends énormément ce qu'il y ait un troisième. Mais toi, qu'en as-tu pensé? Toi qui as lu les bouquins.
Ouais, j'ai lu les bouquins avant, mais je les avais relus il n'y a pas longtemps. En fait, le truc que je voulais dire avant de parler vraiment du film, c'est le fait que Dune, en fait, moi, je suis très content quand même qu'il y ait cet accès à Dune, en fait, qu'on ait une belle adaptation... Sans jeter des crottes de nez à Lynch, hein, qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait et son style, parce que je pense que le vrai problème du film de Lynch, c'est qu'on ait donné Dune à Lynch, en fait.
Ouais, mais totalement.
Parce que je pense que c'est pas du tout dans son.
C'est pas son cinéma.
Tu sais qu'il a des gros défenseurs quand même, ce film, notamment des gros fans de David Lynch, ouais. Tu vois. Je sais que c'est l'instant chat. C'est l'instant chat. Oui, je sais qu'il a des gros défenseurs, notamment parmi la fanbase de Lynch, mais moi, ce que je tenais à dire surtout, c'est que Frank Herbert, quand il écrit Dune, il faut se rendre compte que. Comme le Seigneur des Anneaux, en fait, et notamment, il faut se rappeler que Tolkien et Herbert ont habité la planète au même moment, quand même, ils ne s'aimaient pas du tout, parce qu'on a une œuvre anti-messianique, anti-christique, qui vient critiquer les hommes providentiels, et le alors, ce qu'ils appellent la guerre sainte dans le film, et qui est vraiment appelé le djihad dans les bouquins, il y a eu 10 choix, parce qu'en Occident, je ne suis pas totalement d'accord là-dessus, je ne veux pas forcément rentrer dans le débat,
s'il avait fallu le faire ou pas. Oui, c'est pour éviter des polémiques,
voilà, c'est ça. Mais bref.
Il en a déjà même sans ça, donc
oui, voilà, c'est ça.
De ne pas avoir d'acteur arabe dans le film.
Ça, ce qui est vrai, c'est parce que ça prend toute la culture arabe sans la montrer.
Voilà. Mais juste, c'est un fait que voilà, il y a eu des problèmes avec ça, etc.
En fait, c'est un sacré livre monde parce que ça vient pas entre quelque chose d'assez balèze. Et les romans, en fait, ils vont surtout. On peut les séparer en plusieurs vrais gros arcs. Là, on est toujours dans le premier arc, en fait, de Dune. Mais ce qui est important là-dedans, c'est le fait que Dune, c'est un des premiers romans qui vient parler juste avant, en fait. Le film, il vient à une époque critique de l'histoire, en mode, il sort 2 ans après l'assassinat de Kennedy, et il vient parler d'écologie de manière scientifique, on va dire, juste avant les lanceurs d'alerte des années 70, en fait. Donc, il a une vraie portée sur ce qu'il veut raconter. Et c'est pour ça que je dis juste ça parce que je trouve que c'est important de voir ce qu'a pu être ce Dune en fait en tant qu'œuvre, que c'est aussi gros que certains connaissent tous déjà du coup le Seigneur des Anneaux.
Ouais,
mais ça a une œuvre qui a autant de résonance là-dessus. Et le fait que les deux œuvres soient, que les deux auteurs pouvaient pas, enfin, en tout cas Tolkien, parce que Herbert, on n'a pas vraiment de. Mais bon, on sait pas trop. C'est plus Tolkien qui part à couvrir sa bouche. Et voilà. Moi personnellement, le film en tant que tel, j'ai passé un bon moment devant. Je trouve qu'il y a un vrai côté divertissement sans niveler vers le bas, bien fait, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours pile ou face sur les blockbusters.
Oui,
on en parlait tout à l'heure sur le niveau des effets spéciaux. Là, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut jeter les choses, c'est magnifique. Clairement. Voilà, c'est magnifique.
Là, chaque plan, tu es en mode, non mais attends, ça a coûté moins cher qu'un Marvel, en fait. Enfin, genre juste à un moment, voilà.
Shai Hulud, les gros verres là, sont super beaux.
Incroyable.
Voilà. Moi, là où j'ai toujours les mêmes problèmes que le 1, et ça, c'est du coup, je pourrais pas les changer, c'est parce que je ne suis pas fan de la direction artistique.
Mm-hmm.
La technologie trop carrée, trop lisse, ça ne m'intéresse pas. Autant les tenues des Fremen, je trouve qu'ils sont bien adaptées, ça marche bien, parce qu'on a un vrai descriptif d'Herbert. C'est ça aussi la force dans les bouquins, c'est qu'il a vraiment donné des clés de à quoi ressemble son univers, mais dans l'esthétique, notamment les Harkonnen. Je sais qu'il y a une scène qui a beaucoup plu à tout le monde sur des appelants de blanc et de noir.
Ah ouais, avec elle est incroyable. Enfin, moi, personnellement, je la trouve incroyable.
Et en fait, moi, j'ai un truc où je trouve que du coup, ça fait un peu des Harkonnen, une espèce de parodie. Parce que je ne les identifie pas comme ça dans mon imaginaire. Mais ça, c'est purement personnel. Ouais. Après, en termes d'adaptation, je trouve qu'il a fait des super, des très bons choix. D'autres, je suis un peu plus...
Ouais, justement, j'allais te demander par rapport à ça, parce que moi, c'est souvent les... Enfin, les gens, dans mes commentaires, m'ont beaucoup dit, bah voilà, moi, j'aime pas... Notamment, bah, Shani, elle a une personnalité différente que dans les bouquins.
Ouais, mais ça, c'est mieux.
Ok.
C'est, non, mais pour moi, c'est mieux. Hein, voilà. Pour moi... En fait, le fait que Shani se barre, je trouve que c'est... En fait, quand une œuvre est sortie, quasi, ça fait un moment d'une des années 60... Herbert écrivait avec sa femme, elle a aidé à écrire les personnages féminins et tout, mais ça date d'il y a un moment maintenant.
C'est
en fait,
une autre façon de
le fait que Shiny reste avec Paul qui est en train de vriller à la Anakin Skywalker en mode j'ai tous tué les femmes, les enfants, sur les animaux, et elle se barre. J'ai dit, ah, ça c'est bien. Et je pense que ça plaît pas aux gens parce que du coup, oui, là je peux les rejoindre, c'est qu'il y a des éléments qu'il a enlevés qui changent totalement avec la suite de Dune Messiah, en fait. Le Messie Dune, qui est le livre qui vient juste après.
D'accord.
Notamment de mettre de côté tout ce qui est navigateur et tout ça,
ouais,
que tu vois dans les Lynch. Ouais. Tu le vois dans Lynch,
oui,
le gros poisson, là. qui sont des trucs importants. Normalement, c'est les adversaires de Paul, en fait. C'est eux qui essayent de le déjouer. Il les a vraiment mis de côté. Et c'est les personnages principaux, quasiment, dans la suite, on va dire, entre guillemets, sans vraiment rentrer dans les détails. Mais je trouve que Villeneuve reste quand même assez dans l'esprit d'Herbert sur plein de choses, notamment que les batailles sont skippées.
Oui.
Voilà, parce que ça n'intéresse pas. Denis Villeneuve, déjà, ne sait pas trop filmer les bastons. je suis désolé, la scène de combat au couteau à la fin, elle manque un peu de punchy à la fin.
C'est vrai.
On sent que Villeneuve n'est pas dans son élément à ce moment-là. La grosse bataille, ça fait. Bon, les verres, ils arrivent, ils rasent tout et après, tout le monde est mort. Direct.
Mais moi, j'aime bien ce côté-là. Enfin,
oui.
Parce que je trouve justement ça. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça assume son côté grand spectacle, mais en même temps, eh ben genre il y a un truc d'anti-spectaculaire dans le film que j'aime bien, tu vois.
C'est ça. Mais ce qui permet notamment, parce que je vais en finir vite avec les adaptations, je trouve juste que c'est dommage, par contre, que le côté politique était justement, on revient au navigateur, parce que ça revient sur cette intrigue-là, le côté politique a été vachement lissé pour mettre en avant le côté religieux. Je trouve que c'est très important qu'en fait les deux s'imbriquent à ce point-là, et c'est mon vrai gros point noir sur le scénario du film.
Ok, alors après, moi, personnellement, j'ai pas lu, mais encore une fois, les gens m'ont beaucoup dit, bah, le premier, moi, j'ai rien compris, etc. Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté peut-être d'avoir rendu le truc un peu plus simple. Alors franchement, personnellement, je comprends pas trop ce que tu comprends pas dans le premier.
Vous notamment avez vu Game of Thrones, les gens.
Des gens m'ont dit, j'ai pas compris à quoi sert l'épice et tout. Mais les gars, c'est expliqué.
Ouais, alors en plus que là, il a fait vraiment le choix d'expliquer. Parce que dans le livre, l'épice n'a pas de rôle propre.
Ah oui, ok, d'accord.
C'est le truc cosmique.
Juste, ça rapporte de l'argent
et c'est tout. Voilà, c'est... Il y a des gens, ils s'en servent pour plier l'espace. Il y en a.
Okay. Parce que là,
il dit c'est un carburant. Là, il dit c'est un fou.
Ouais, voilà.
Parce que du coup, dans les. Normalement, c'est un truc qui plie l'espace. Qui plie l'espace-temps, voilà.
Okay.
Mais ça a plein de propriétés. C'est l'épice, selon Frank Herbert, selon ce qu'il a écrit, tu l'as défini comme tout. C'est la ressource magique, c'est le truc qui ne fait pas vieillir, c'est tout.
D'accord.
C'est le Graal de tout ce que peuvent chercher les êtres humains, en fait.
Ok, je vois.
Mais oui, il avait déjà simplifié cet aspect-là, donc sur l'épice, quoi.
C'est
de l'essence. C'est de l'essence de l'espace.
Et du coup, il a aussi simplifié les rapports entre les différents conflits, etc., quoi. Et je pense que c'est peut-être une volonté d'essayer de rendre ça un peu plus accessible, quoi, entre guillemets.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Et qu'est-ce que tu penses de Paul, enfin, de son évolution?
Moi, je trouve que du coup, elle fonctionne. Le seul truc, c'est que je me dis tout le long du film que heureusement que le directeur de la photo, il fait un taf de fou sur Chalamet, parce que je trouve que c'est la seule chose qui fait que j'ai pas envie de rire quand il arrive avec sa cape un peu énervé. Je dis, qu'est-ce qu'il va me faire, lui?
Je vois. Moi, je vois. Enfin, j'aime pas trop Chalamet en général. Ceci dit, je l'avais trouvé pas mal dans mon cas dernièrement. Et en fait, justement, je trouve, par rapport au premier en tout cas, qu'il est beaucoup plus crédible, notamment dans son switch, tu vois. Au début, il est encore vraiment apeuré par toute cette prophétie, etc. Et quand il boit l'eau de la vie, il y a vraiment ce switch direct de Anakin Skywalker, comme tu disais tout à l'heure, il est du côté obscur et il va buter tous les Padawan dans le palais, quoi. Vraiment, il y a ce truc-là. Et franchement, j'ai trouvé ça assez crédible, mais justement, je me demandais ce que t'en pensais, d'autant plus que je sais que dans les bouquins, c'est teasé beaucoup plus tôt ce côté de... enfin qui
oui en fait qui va devenir un prophète, dès les moments dès les moments où dans les listes je me souviens bien dans, dès les moments où il se retrouve seul avec sa mère il y a une empathie de je suis le messie.
Ouais,
je suis le messie, il faut que je le fasse. J'ai pas envie de le faire, mais il faut que je le fasse. Ouais,
alors que là, non, vraiment, il hésite longtemps. Voilà,
quand,
dans le
quand il rencontre les Fremen, il leur parle mal, tu vois, au début. Ouais, c'est, okay, voilà, respectez-moi, j'ai un petit peu une décision. Okay. Voilà, mais c'est parce que il y a ce truc aussi de White Savior. En fait,
ah, mais totalement. Ah bah, ça, oui, absolument. C'est... Moi, je te l'ai dit, dès que j'ai vu à la fin du film, j'ai dit, c'est White Savior le film.
Tu sais que ça m'a fait penser à Atlantide, le film de Disney.
Oui.
Où t'as littéralement cet archéologue anglais,
oui, c'est
qui
ça,
débarque à Atlantide, dit écoutez-moi, je vais vous expliquer votre culture.
Oui, je vais vous sauver.
Ah, je vais vous sauver, je vais vous expliquer votre culture, bande d'ignards.
Je vois.
Mais oui, il y a un peu de ça dans Dune. Mais en tout cas, là, dans le, parce qu'on a parlé un peu de scénario, tout ça et tout, il y a quand même ce côté que. On voyage plus sur Arrakis aussi, même si on est dans le désert, hein, globalement.
Oui, enfin, oui.
On est dans le désert. Mais il y a ce côté que les décors
sont... Il y a le nord et le sud, attention.
Voilà. Les décors, c'est comme à couper le souffle.
Ah oui, ça. Le vrai désert, ça se sent, ça se voit.
Et, au niveau de l'utilisation des sœurs des Bene Gesserit, voilà, elles sont super bien mises en scène aussi et tout ça.
Complètement.
Le choix alors, d'avoir mis encore en fœtus... c'est plus un choix, voilà, c'est à chacun son interprétation, hein, parce que c'est vrai que du coup, vu qu'il a raccourci le temps qu'on passe avec les Fremen au début, parce que normalement, Alia, enfin, la sœur de Paul grandit à ce moment-là, on la voit grandir en accéléré à ce moment-là.
D'accord.
C'est un choix, parce que devant, c'est très dur de mettre une enfant, mettre à terre Vladimir Harkonnen à l'écran, c'est compliqué.
Ouais.
Mais voilà, on a, en parlant de Vladimir Harkonnen, quand même... Stellan Skarsgård, il fait un super taf, je trouve. Voilà. Enfin, en tout cas, le casting en général assez fou.
Barden, il est incroyable. Genre vraiment, il est incroyable.
Mais lui, il s'éclate parce que. en plus, voilà, il est en mode un petit peu. Il est anti-sioniste, tu vois. Il est pro en mode Free Palestine et tout.
Ouais.
Et du coup, de jouer l'espèce de mec qui s'éclate un peu, tu vois. Il s'éclate en mode. Lissan Al-Gahib. Et ça, j'apprécie qu'il l'a tourné un peu en ridicule.
Ah non, mais vraiment.
Parce que c'était pour rendre le truc, si on avait vraiment fait ça en messie. Messianique à 100%, ça aurait rendu le truc un peu lourd.
Oui, je suis d'accord. Et puis en plus, je trouve ça intéressant. Alors, je sais pas si c'est ça dans le bouquin, mais je trouve ça intéressant d'avoir opposé les générations. Parce qu'en fait,
c'est pas comme ça dans le bouquin. Et ça, j'allais venir, c'est super
d'accord.
Cool.
Et ben ça, justement, c'est très moderne dans la façon, parce que c'est vraiment l'ancienne génération qui est très aveuglée par la religion, quoi, et la nouvelle génération qui, elle, est plus souple, qui est plus, on va dire, qui n'est pas aveuglée et qui se dit, bah non. C'est un gars lambda, enfin.
C'est surtout que ouais, il y a un truc de au-delà de l'ancienne génération, la vieille génération aveuglée. Je trouve que c'est plus dans le stand de les jeunes veulent prendre leur destin en main.
Oui.
C'est surtout ça
en
fait.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vraiment de. Ben oui, ok, vous attendez votre truc, mais ce truc-là, ça se trouve c'est pas ça. Nous, on veut juste vivre notre vie en fait. Voilà, fichez-nous la paix avec vos vieilles habitudes et traditions. Et ouais, et puis du coup, Rebecca Ferguson, super cool.
Ah oui.
Elle tire super bien son rôle.
Totalement. Elle fait flipper d'ailleurs.
Ah, elle fait flipper, mais surtout avec la voix de Taylor Joy qui vient se mélanger à ça.
Totalement. Qui d'ailleurs est présent un plan dans le film. Mais...
Oui, bah, elle fait son caméo quoi.
C'est ça.
Elle fait son caméo. Toujours sa voix aussi impactante par contre.
Ouais.
Taylor Joy,
elle a toujours
une voix qui marque.
Par contre, justement, en parlant de Ferguson, bah, c'est pas directement à cause d'elle, mais je trouve dommage qu'il y ait autant de flashbacks, enfin de vision avec elle, parce que finalement, bah, dès le premier plan. Elle est tellement reconnaissable de dos que j'ai tout de suite compris que c'était elle. Et du coup, bah, ça spoil pas parce qu'en soi, bah, je me doute un peu ce qui allait se passer. Mais c'est un peu dommage. De toute façon, c'est toujours compliqué de représenter les visions au cinéma parce que c'est soit tu donnes trop d'infos et du coup, bah, tu sais où on va. Soit tu dis que tu donnes rien et voilà.
Tu fais n'importe quoi.
Exactement. Soit tu donnes rien et du coup, bah, ça n'a aucun intérêt. Enfin, et du coup, pas représenter les visions, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a toujours un peu ce problème-là. Mais du coup, quand tu prends une actrice trop identifiée, bah... C'est dur de faire du suspense avec ça, tu vois.
Ouais. Il y avait comment aussi Florence Pugh dans le rôle de la princesse Irulan qui s'en sort honorablement pour ce qu'elle a à jouer.
Elle n'est pas là beaucoup, par contre.
Non, parce que normalement, en fait, tout le livre est narré par la princesse Irulan.
Ok.
Parce que c'est elle qui rapporte dans des archives impériales ce qui est en train de se passer. Donc après, ça aurait été difficile de l'inclure dans le premier parce que déjà que Zendaya ne servait à rien dans le premier.
C'est vrai.
Si tu rajoutais Irulan, elle servait encore à moins.
Zendaya, elle était pour la promo.
Ouais, c'était vraiment ça. Hein,
elle est 10 minutes à la fin et encore, allez hop, pas tout cassé.
Donc.
Et il y a aussi. Comment elle s'appelle, l'actrice française déjà?
Léa Seydoux.
Il y a Léa Seydoux, oui, effectivement.
D'ailleurs, c'est très marrant parce que je me demandais qu'est-ce qu'elle foutait Léa Seydoux, parce qu'on n'avait pas plus entendu parler que ça, oui. On l'avait vu un truc. Mais je sais que par contre, Papa Seydoux, il devait financer celui de Jodorowsky.
Ah, tiens.
Et donc, je me dis.
Peut-être que.
Il y a eu de la connivence là-dedans, tu vois.
Mais elle joue très bien son rôle aussi.
Oui, oui, elle est dans les Bene Gesserit, ça lui va voilà, très bien, la femme froide et calculatrice. Enfin, on l'a jamais
vu. On dirait
joué, ça.
James Bond, quoi.
Voilà, c'est ça. La femme froide, calculatrice, détachée avec un objectif un peu flou, on l'a jamais vu jouer ça.
Absolument pas.
On l'a jamais vu jouer ça. Donc, oui, niveau du casting, je trouve même que dans les jeunes acteurs, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya et comment il s'appelle, celui qui joue très drôle, Rota, j'ai oublié son nom.
Ah, tu parles de Austin Butler.
Voilà, Austin Butler qui joue Rota, l'opposé de Timothée Chalamet, qui s'en sort bien aussi.
Je suis bien flippé aussi.
Ouais, oh, bah, le sociopathe.
Clairement, le sociopathe. Là.
Le petit sociopathe illustré. Ouais, je trouve que ça fonctionne quand même très bien, ce Dune. Je pense qu'il y a un vrai potentiel pour des jeunes générations qui découvrent ça. Maintenant, voir pour Dune 3, du coup, le Messie Dune.
De toute façon, il y aurait pas mal d'années entre les deux, puisqu'il veut refaire un film au moins entre les deux.
Il veut refaire un autre film, ouais, il veut le faire film. En deux parties.
Non, c'est qu'il veut faire un autre film qui n'a rien à voir avec Dune
pour le sortir du désert.
C'est ça.
Il en a marre de
tourner. Ouais, il a besoin d'une pause et tout, donc ça, on aura pas mal d'années.
Ouais, il y a besoin de ça, parce que de toute façon, normalement, le Messie Dune, temporellement.
Il faut qu'il vieillisse les personnages.
Ben, en fait, techniquement, dans les livres, on ne voit pas la guerre.
Ok, ah oui.
Le Messie Dune commence, ça y est, j'ai conquis l'univers.
D'accord, ok.
Voilà, c'est en entre guillemets.
Bah là, en soi, ça finit un peu comme ça, en mode.
Oui, on voit ça. La guerre, puis allez. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant sur la guerre galactique qui a lieu dans Dune, ce djihad. Tout se passe sur Dune, en fait.
Ok.
On voit très peu l'extérieur.
Ok.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, c'est vraiment le centre du truc. Et. Après, je pense qu'on n'aura jamais tout l'univers. Et c'est pas très intéressant parce que, après, t'as le fils de Herbert qui a repris, qui a fait les avant Dune, après Dune. Je crois qu'il a écrit en tout plus d'une dizaine de livres.
Wow.
C'est-à-dire plus que les 6 livres que son papa avait écrit.
Ah, le bordel.
Et où, en gros, par contre, il raconte des choses qui sont intéressantes parce que tu sais, au début, ils parlent des machines. Tu sais qu'il y avait des machines.
Oui.
Qu'ils ont supprimé les machines.
Oui, oui.
Et ben, avant Dune, parle de cette guerre des machines, en fait. Okay. Et comment on en arrive à l'épice, en fait.
Mais justement, même pour les lire, ça a l'air d'être compliqué parce que, du coup, j'ai regardé un peu. Moi, j'aimerais bien les lire. Soit, bon, je prends les classiques, tome 1, tome 2, soit je prends tout. Et du coup, en fait, c'est dans un ordre, puis ensuite, ça prend le 1, puis ensuite, on repart sur l'autre, puis on fait le 2. Puis...
Bah, en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à la Maison des Mères.
Ouais.
Qui avec parce que le personnage, pour moi, c'est là où c'est très cool, c'est que le Bene Gesserit et Leto, c'est les personnages les plus intéressants de Dune. Mais après, tu as tous les trucs, parce qu'il y a des livres qui se passent entre des bouquins qu'avait écrit le fils de Herbert, qui parle des maisons en particulier.
Okay.
Et il y a même des comics maintenant, du coup, de Dune. Hein. Il y en avait déjà eu des BD avant, mais là, maintenant, il y a des nouveaux comics, une nouvelle génération.
Ouais, j'avais vu qu'il y en avait, que c'est 100% le film.
Oui, le film en BD. Hein, voilà. Et puis, du coup, tu as Après Dune, et le truc qui s'appelle aussi... Enfin, Après Dune et Avant Dune aussi, du coup. Donc, c'est assez tentaculaire.
Ouais. Ok, je vois.
Mais bon, voilà. Le film, pour en conclure dessus... très grand blockbuster, très bon divertissement, je trouve. Et par contre, oui, voyez le 1 parce que c'est vraiment des films qui s'enchaînent directement.
Il faut
aucun intérêt, vraiment. Hein. Autant sur des films, je peux considérer, tu commences là, il y a vraiment aucun intérêt.
Non, mais totalement.
T'es à côté du film en fait, sinon.
Complètement.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Dune. On va maintenant partir du désert d'Arrakis pour aller dans une région un peu plus froide qui est le Québec.
Ah oui, beaucoup plus froid.
Pour parler d'un formidable petit film.
Premier film, attention.
Petit et premier film.
Exactement.
Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause. T'as quel âge?
68.
En tout cas, t'as vraiment pas l'air de 68 ans.
Il n'y a pas quelque chose que tu aimerais faire?
Hein?
Une dernière volonté.
Je vais te régler ça, moi, cet humanisme-là. Il y avait tout en ami.
C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose.
Donc oui, il s'agit de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Donc
meilleur titre.
Oui, vraiment, meilleur titre de l'année, meilleur titre de la décennie, tout ce que vous voulez, mais vraiment incroyable.
C'est ça qui a fait parler du film aussi, j'ai l'impression.
Ah oui, bien sûr, je pense.
Pour bouche à oreille.
Et aussi, je sais pas si t'as vu la deuxième affiche, elle est vraiment incroyable. On a malheureusement pas celle-là.
Mais, non, mais oui,
ça a vraiment fait parler aussi sur les réseaux, donc peut-être que ça a servi. Tant mieux en tout cas. Donc oui, c'est un film québécois, un premier film exactement de Ariane Louis XVI, et ça ne s'invente pas comme nom, avec notamment Félix-Antoine Bernard, dont c'est aussi le premier film, et Sarah Monpetit, que vous avez peut-être déjà vu dans le très beau Falcon Lake de Charlotte Lebon, effectivement. C'est son deuxième rôle, donc franchement, ça pèse. Hein.
Non, mais Sarah Monpetit, elle a un vrai... y a un vrai truc. Hein.
Ouais, il y a un vrai flow dans son jeu.
Il y a une vraie grande actrice qui se cache.
Ouais, vraiment, je suis totalement d'accord. Et donc, c'est un film québécois qui mélange comédie, film de genre et, je dirais, coming of age. Donc, ça brasse large. Et dans lequel, eh bien, globalement, le titre dit ce qu'il se passe, hein, mais on va quand même faire un petit résumé. En fait, on y suit Sacha, donc joué par, interprété par Sarah Monpetit, qui joue une jeune vampire de 68 ans. Oui, elle est adolescente, mais elle a 68 ans quand même, c'est un vampire. Qui est tellement empathique qu'elle n'arrive pas à s'en prendre aux humains pour se nourrir, et ce, bah, depuis son plus jeune âge. Du coup, ses parents sont obligés de chasser pour elle, mais bon, disons que la mère, ça fait très longtemps qu'elle fait ça, et elle en a un peu marre.
Incroyable moment de charge mentale.
Oui.
Ouais, c'est bon, moi, je chasse tout, j'y arrivais.
J'ai pas envie de faire ça pendant encore 300 ans.
Oui, ben moi aussi, je chasse.
Non, il a dit, moi, j'y suis allé hier. Et il fait,
allez,
oui, bon, bravo. C'était vraiment ça, j'étais en mode, c'est incroyable, meilleure vanne. Et du coup, oui, donc la mère en a marre et donc décide de lui couper les vivres et de l'envoyer chez sa cousine. En gros, sa cousine qui, elle, est une grande chasseuse, machin. Pour qu'elle apprenne vraiment le métier. Par chance, elle va tomber sur Paul. Paul, qui, comme son nom l'indique, est un adolescent humain qui veut se suicider. Et il décide tout simplement de lui offrir sa vie, ce qui l'arrange bien, puisque comme ça, elle n'a pas à chasser et à s'en prendre à des innocents, quoi. Mais évidemment, vu qu'elle est empathique, elle va décider de quand même accomplir ses dernières volontés. Et donc, du coup, en gros, tout va se passer dans cette dernière nuit ensemble. Voilà. Et c'est merveilleux, en fait.
Oui.
Voilà. Je sais pas ce que toi tu en as pensé, mais je pense que tu as plus ou moins le même avis sur la question.
Oh oui, non, moi je suis totalement conquis par le film. Je l'avais vu au PIF, parce qu'il a fait pas mal de tours des festivals. Ouais. Il a gagné le prix du public, d'ailleurs, au PIF.
Effectivement.
Donc voilà, il a eu une très bonne presse en France.
Il a été à Gérard Armé.
Voilà, c'est ça. C'est un petit film qui a fait un bon petit bout de chemin, sans être qualifié non plus de chef-d'œuvre et tout. Il a eu vraiment une très bonne.
Il a été même, d'ailleurs, à Venise.
Ouais,
il a gagné un prix. Meilleure réalisation.
Ah, c'est trop bien. Parce que ouais, c'est vraiment trop bien fait. Je trouve qu'il y a un super jeu de couleurs, enfin sur les couleurs avec tous ces néons là.
Totalement.
C'est tourné quand des décors à l'extérieur, ils ont
47 décors différents.
Ouais, ça.
En une trentaine de jours. Autant vous dire, c'est un speedrun.
Ah ouais, voilà. C'est à fond quoi. Le duo Sarah Monpetit et comment il s'appelle, Luc, c'est ça?
Félix, je crois.
Félix.
Attends. Félix Antoine Bernard.
Félix Antoine Bernard, pas du tout Luc.
Non.
Je crois que son personnage.
Félix Antoine, c'est son prénom, et Bernard, okay. Son nom.
Félix Antoine Bernard, du coup, qui est un jeune acteur, fonctionne super bien. Ils ont une super
ouais,
dynamique.
Une bonne dynamique.
Et ça accentue vraiment ce côté que elle, en fait, ça casse ce que son personnage pensait savoir, que les humains avaient peur de la mort, tout ça et tout.
Effectivement. Et justement, par rapport à ça, apparemment, la dynamique pour les producteurs marchait pas du tout. Et en fait, ils ont fait des essais, etc. J'ai écouté plusieurs interviews, etc. d'eux, donc ils en parlaient. Et ils disaient que oui, ça marchait pas du tout. Mais justement, la réalisatrice a dit, mais c'est ce que je veux. C'est des adolescents perdus dans leur vie qui ont du mal à communiquer ensemble. Et donc, du coup, c'est ce qu'il faut. C'est ce côté, ils sont un peu bizarres. Mais c'est normal parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment se comporter en société.
Oui, bah c'est totalement comment... ça, le voilà. Coming of age.
Et du coup,
à 100%.
C'est ce que je trouve que justement... Le fait que ça fonctionne pas ensemble, bah fonctionne d'autant plus pour ce que ça veut raconter, quoi.
Bah oui, clairement. Et je trouve qu'en fait c'est un film qui est doux amer.
Ouais.
Qui, c'est une métaphore assez facile sur les angoisses de l'adolescence et du rapport au corps, parce qu'elle a tout ce traumatisme de ses crocs de vampire.
Elle ne bande pas, quoi.
Voilà, c'est ça, littéralement. Même on peut y voir juste des choses sur le bien-être animal, parce qu'elle veut pas tuer. Il y a plein de lectures, je pense, en fonction de là où tu
le coming out, en fait.
Ouais,
parce que le côté, sa famille, ils ont toujours été comme ça, et elle est différente, et elle l'annonce aux parents, quoi. Donc, ouais, il y a tout ce côté-là. Il y a vraiment beaucoup de sujets différents, quoi. C'est
ouais, puis on peut prendre... Tout le monde peut y prendre un peu de ce qu'il y voit. Et ce qui est la force principale de ce film, à mon sens, c'est ses personnages. Parce que autant les parents que le personnage de Sarah Monpetit, que le personnage du suicidaire, que la tante.
Oui.
La tante qui est formidable.
Même la cousine.
La grand-mère aussi. Ouais. Enfin, oui, c'est la grand-mère, la cousine. Ça fonctionne super bien.
Ah, totalement.
Et tu t'accroches à ces personnages, en fait, dans cette espèce d'univers où les vampires sont totalement immiscés dans la société humaine.
Ils sont comme les autres.
Quoi. Voilà, c'est juste des gens qui vivent un peu cachés.
La nuit, de temps en temps. Mais ils craignent pas le soleil, contrairement. Enfin, en tout cas, ils brillent un peu de ce qu'on comprend, mais c'est pas très grave.
Non, ouais, c'est une très bonne histoire de vampires.
C'est ça.
Et la réalisatrice en parle d'elle-même, mais je m'étais fait la réflexion que ça me faisait beaucoup penser. Il y a un petit côté Harold et Maude dans l'idée. Et vu qu'en fait,
j'ai jamais vu le film, mais je vois.
Moi, je l'adore. C'est un film que j'adore. Et en fait, dans l'idée, c'est même un de mes films préférés, mais vu que le personnage, c'est un petit à 68 ans. En fait, on trouve vraiment la dynamique quand il repense de Harold et Maude en mode
c'est une vieille
dame avec un jeune homme et tout. Et c'est d'autant plus parce qu'on y voit. Je trouve que c'est surtout un film sur aussi une amitié entre deux jeunes perdus.
Parce qu'on peut y voir une amourette, mais aussi une amitié, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment.
Moi, j'y vois vraiment une amitié sincère.
Mais chacun trouve ce qu'il veut à la fin. Et d'ailleurs, pareil, dans les interviews, ils en parlaient. Ils disaient, en fait, c'est libre d'interprétation. Il n'y a jamais vraiment de réponse vis-à-vis de ça. Quoi.
J'aime bien cette petite fin à la Bonnie and Clyde.
Ouais, vraiment. Mais c'est ma seule petite déception. Je voudrais en voir un peu plus, tu vois.
Et bien, justement, elle en parle aussi dans l'interview que le film devait se terminer autrement.
Ah,
il y avoir une scène après. Mais en fait, tout le monde lui a dit, et elle en parlait. Il n'est pas encore tourné. Il n'est même pas encore tourné. Elle parlait de ce qu'il devait avoir. Et les gens lui ont dit non. En fait, c'est très bien que ça se finisse comme ça.
Okay.
Il y a une scène où les parents rencontrent la mère du jeune garçon.
Ah.
Et ils font un repas ensemble où ils sont en train de bouffer leur carcasse.
Okay.
Elle mange sa petite omelette. Et voilà, ils parlent des voitures, du beau temps et de la pluie. Les gens trouvaient que ça faisait un peu anticlimatique.
Oui.
Mais bon.
Je vois.
En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un très bon film d'horreur. J'en discutais avec d'autres personnes aussi, et on avait fait la remarque que c'est que des jeunes, en fait. C'est le premier film de Ariane Louis XVI. Sarah Mpoti, c'est un de ses deux ou troisième films. Elle n'a pas non plus une carrière immense.
Oui, oui.
Le jeune acteur, c'est pareil, c'est un nouveau. Le directeur de la photo, il bosse avec la réalisatrice depuis pas très longtemps, mais je crois que c'est un de ses premiers gros projets aussi. Et du coup, je ne vais pas piquer les mots de mon pote, mais il y a une idée que c'est un peu la nouvelle génération québécoise, et avec tout ce qu'on voit ces derniers temps avec Charlotte Lebon et tout, il y a
ça fait plaisir.
Un grand truc qui est en train de se passer.
Il y a un renouveau de fou, et c'est très bien surtout que ça traverse l'océan et que ça arrive chez nous. Quoi,
et on n'a pas tout, on n'a pas tout encore.
Non, on n'a pas tout,
mais on a des
justement,
ce qui nous arrive, c'est cool.
Le père, son nom de famille, c'est Plante, je ne sais plus exactement, qui est d'ailleurs
son babysitter,
celui qu'on voit souvent, etc. Voilà. Lui disait que justement, nous, ce qu'on voit, c'est le meilleur. Parce que apparemment, dans l'économie québécoise, il y a aussi les comédies comme Philippe Lachaud en France, tu vois. Et du coup, on n'a pas cet arc-là.
J'espère qu'on ne les exporte pas, l'international, celle-là non plus, d'ailleurs.
Je ne sais pas, mais c'est possible. Et du coup, voilà. Donc, en fait, on a le meilleur qui arrive, et c'est tant mieux, au final.
Ouais, non, clairement, hein, c'est... comme on dirait la planète Mars,
toi,
c'est les chambres rouges. Que
les chambres rouges, incroyable, vraiment. Non, mais cette année, déjà, moi, dans mon top 5, j'ai deux films québécois. Donc, à partir de là, voilà, c'est quand même fort.
Ouais, c'est fort. Hein,
on n'est qu'en mars, quoi.
Donc, voilà, il doit être encore en salle, parce qu'il est sorti la semaine dernière quand on enregistre.
Il marche bien, je crois.
Donc, voilà, donc,
et c'est très cool, d'ailleurs, qu'il marche bien.
Allez soutenir le film d'Ariane Louis XVI en salle si vous en avez l'occasion, s'il passe à côté de vous. Parce qu'il a été quand même un peu distribué, ça fait plaisir.
Oui, oui, oui.
Ça fait plaisir, au moins dans les grandes villes, tout du moins, ce que j'ai pu voir. Et en espérant que, pour l'instant, Ariane Louis XVI va nous faire d'autres belles choses, parce que son premier film, il envoie quand même
du
pâté, voilà. Donc, allez voir des films d'horreur comme ça, qui font du bien, qui sont doux.
Doux et amers.
C'est ça. Et maintenant, c'est fini le doux, c'est fini l'amer. On passe au doux amer avec Kung Fu Panda 4.
Tu dois passer à l'étape suivante de ton voyage.
Ah bon ? Je vais plus être le guerrier dragon ?
Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix.
Apaisé. Apaisé.
Vire tes nageoires de mon territoire !
Affamé. À manger, légumes et nouilles sautées.
Ah, ça marche pas du tout.
Tai Lung, je suis fan. Quand je posséderai le kung-fu des plus grands méchants,
personne n'osera douter de mon pouvoir. Pas même l'illustre guerrier dragon.
Everybody was kung-fu fighting, tout le monde, sauf Pao. Qui est contraint, du coup, dans ce quatrième volet, de devenir un guide spirituel pour son village, comme dans le troisième, et qui cherche un successeur. Et donc, comme Po, nous, on est là à regarder ça, un peu contraint.
Et forcé, enchaîné à son siège, avec des enfants qui braillent autour.
Ça va, ils étaient plutôt calmes.
Bah justement, mais... parce qu'il n'y a rien à voir.
On va refaire un petit résumé. Donc oui, voilà. Du coup, Kung Fu Panda, pour ceux qui auraient loupé le train en marche, parce que ça commence à dater quand même, Kung Fu Panda, c'est un premier film en 2008, un second 2008. En 2011, un troisième en 2016. Il y a quand même pas mal d'écart à chaque fois.
Vraiment.
Du coup, il y a 8 ans entre le premier et le troisième quand même. Hein. Et ce Kung Fu Panda 4 en 2024. Mais entre-temps, il y a eu... 8 courts-métrages et séries dérivées autour de Kung Fu Panda.
Que
je ne me suis pas infligé. Hein,
Étonnant.
J'ai vu vite fait l'animation. Ah, c'est pas fou. Hein, c'est pas
ouais,
fou.
Non, toutes les trucs comme ça. Chez
DreamWorks, c'est là, pas... Dragon, Shrek et tout, c'est assez dégueulasse. Mais bon, moi personnellement, avant que je parle, je voudrais savoir ton rapport à la saga Kung Fu Panda. Parce qu'on parle de saga maintenant.
Oui, saga. Que,
pour ceux qui ne le savent pas, du coup, c'est le début d'une nouvelle trilogie. Parce qu'on en avait besoin.
Je l'ai appris il y a 2 minutes juste avant. Là, j'étais en mode, mais quoi, non.
Voilà, c'est parce qu'on en avait besoin, visiblement. Oui. Et ça suite au rachat de DreamWorks par Universal.
Ouais, oui.
Voilà, on active tout, on active la pompe afrique.
Non, moi, mon rapport à la saga, c'est des bons petits films d'enfance. Enfin, tu vois, genre, j'ai jamais trouvé... ça dans le top de DreamWorks, enfin, je veux dire, c'est loin d'être nul, hein, mais je veux dire, moi, je préfère par exemple Dragon, je préfère Shrek, voilà, mais c'est juste de personnel, quoi. Mais non, ça a toujours été des très bons moments. Je trouve que même la VF a toujours été hyper qualitatif, c'est hyper dynamique, c'est fun en fait, enfin, genre vraiment, ça assume son côté fun jusqu'au bout, c'est drôle. Il y a même des personnages secondaires hyper intéressants, notamment les 5 cyclones, qui sont totalement absents de celui-ci.
Ouais, mais on en reparlera, c'est normal.
Ouais, non, mais c'est un peu, voilà. Non, mais du coup, voilà. Globalement, moi, c'est une saga que j'aime bien. Et quand j'ai vu qu'il y avait un quatrième, j'étais pas serein, mais j'étais pas non plus dans le « oh, encore », tu vois. J'étais juste en mode « on va passer un bon petit moment, ça sera sûrement pas le grand film, mais on va passer un bon petit moment ». Bon, spoiler, c'est pas vraiment le cas, mais voilà. Et toi ?
Ouais, moi, c'est un peu une saga d'enfance que j'aimais beaucoup. Ça me faisait quand même assez rire, surtout le premier. Voilà, j'avais découvert ça gamin. C'était voilà, bon petit film familial. C'est une parodie. Voilà, c'est une parodie de tous les films de Kung Fu. Et je trouve que c'est ça, du coup, le problème du quatrième. Parce que le quatrième, c'est une parodie de Kung Fu Panda, en fait. Et quand une parodie commence à se parodier, on perd quand même pas mal en substance au bout d'un moment. Ouais, je trouvais que la trilogie se suffisait quand même. Déjà, j'étais surpris qu'il y ait un 3. Mais le 3 vient conclure un peu toute cette histoire de personnes en quête d'identité, en lui donnant de papa, en faisant comprendre la disparition de son peuple, en lui redonnant une famille absente de ce quatrième opus. Voilà. Mais je trouvais qu'on est arrivé au bout. Et en sachant que j'étais quand même étonné, parce que du coup, le pitch du quatrième volet, moi j'ai brûlé de la sauge. Hein. Dès que j'ai vu le quatrième film annoncé, j'ai brûlé de la sauge. Pas que je sois attaché plus que ça à la licence, je me dis, oulala, parce que autant le chapeauté 2, quand il avait annoncé DreamWorks, j'étais en mode, l'animation a l'air sympathique, pourquoi pas. Là, pourtant, je ne regarde pas beaucoup de trailers, mais j'étais tombé dessus au cinéma, ça avait l'air générique à en crever. On reste du coup que oui, voilà, oui. C'est ça, c'est copier-coller.
C'est un film de plateforme en fait.
Ah ouais, c'est copier-coller, voilà. Mais on va y venir. Le truc, c'est le film qui commence en nous caractérisant, en fait, en nous remettant le premier méchant, parce que c'est ça tout le truc de ce film, c'est que l'antagoniste est un personnage qui ne sait pas se battre,
non.
Qu'on nous dit. Voilà.
Ah oui, maintenant si, mais au début, oui.
Voilà, elle ne sait pas faire de kung-fu, visiblement. Mais du coup, elle a besoin de puiser les pouvoirs dans les anciens méchants de la licence. Donc voilà. Donc Tai Lung, le méchant du premier Kung Fu Panda, est de retour. Et Po part enquêter là-dessus avec sa nouvelle apprentie. Enfin, c'est pas son apprentie, mais on sait très bien que vu qu'il n'y a que elle dans le film, ça va être elle qui va devenir le nouveau guerrier dragon.
C'est ça.
Parce qu'il doit devenir guide spirituel.
Oh là là, on cherche un guerrier dragon. Deux minutes après, elle essaye de voler des objets et tu fais « Eh ben, il l'a trouvé !»
Oui, tu parlais justement, on parlait qu'avec deux personnages, parce que les 5 cyclones ne sont pas là et je pense que c'est totalement pécunier comme raison. Hein, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a un truc, c'est que ça coûte du fric. Hein,
oui, non, mais
et là, c'est Jackie Chan, Angelina Jolie, Lucy Liu, c'est que des gros comédiens. Si c'est pour vouloir faire une line...
D'ailleurs, on peut le dire, en soi, on les voit dans le film. Mais ils n'ouvrent pas leur bouche.
Oui, c'est son générique de fin.
C'est ça.
Mais c'est déjà le cas dans le 2. Hein.
Oui, c'est vrai.
Dans le 2, il n'y a que Tigresse qui est là. Hein. Vrai, les autres se font à jeter du film un petit peu. Mais bon,
Le problème, on parlait de réchauffer, et là-dessus, ça va être plus mon avis, c'est que ça ressemble beaucoup aux deux parce qu'on est dans une grande ville, la ville de, qui ressemble à la ville de Gongmeug. Il y a la même scène. Non,
mais
de...
surtout, il est censé avoir fait le tour du monde, genre, tu sais, pour se battre et tout. Et oui. Il découvre la ville comme si c'était la première fois
qu'il Oui, puis personne ne le connaît.
Oui, en plus. Oui,
en soi, voilà, mais c'est que c'est vraiment la même scène de course-poursuite. C'est pas inspiré en termes de mise en scène. Ah, oui. C'est encore une fois, c'est kung-fu sans le. Enfin, c'est panda sans le kung-fu, quoi. c'est vraiment...
En fait, dès que le film veut faire des scènes de combat, bah, il les expédie. Et à côté de ça, bah, ça nous sort des grands discours sur la famille, sur l'amour et tout. Notamment, moi, je trouve que déjà, en termes de rythme, ça ne marche pas. Il y a plein de problèmes comme ça. Mais surtout, d'avoir fait quasiment, on va dire, 50-50 entre le duo Po et son apprenti et ses deux pères. Oui. Mais ça ne marche pas. Il y a un vrai problème de rythme. Il y a un vrai problème de... Ça n'apporte rien, ça plombe le tout pour rien, en fait.
Non, c'est clair. Notamment le fait qu'en fait, ils sont toujours à la traîne sur la narration.
Et oui.
Et du coup, ils nous font retraverser les mêmes lieux refaire des... En fait, là où Po a une situation sérieuse, on va dire, une péripétie sérieuse, eux, ils reviennent dans les mêmes lieux juste après.
Ah là là, le gag.
Et eux, c'est une situation de gag. Gag qui, d'ailleurs, au demeurant...
ne sont pas drôles.
À notre égard, non, mais enfin,
c'est j'ai un pas film pour enfants.
Mais les enfants n'ont pas beaucoup réagi en fait dans la salle. Ils ont rigolé, bien sûr,
mais trois fois, on va dire que vraiment, voilà, mais sans plus.
Mais le et le film s'en va à la truelle parce qu'il y a tellement de situations résolues juste par un cut. Il y a trois quatre fois dans le film où juste
la falaise, on s'est regardé en étant maintenant, mais là, oui, bah, si tu veux, vas-y.
Ça, t'en es en plein milieu d'une péripétie et plutôt que trouver un moyen, même le plus loufoque possible, pour s'en sortir, c'est juste ça cut. Et on est
surtout que juste avant, et c'est un peu, il y a le danger et tout, et puis même tu te dis c'est un peu drôle parce qu'en fait ils sont encore plus dans la merde. Non en fait, parce que hop cut, et puis finalement
t'as l'impression qu'il manque des plans du storyboard à ce moment-là.
On dirait, mais vraiment c'est ça, c'est on rush, et en fait il y a tout ce côté économie tout le long du film, parce que on en parlait aussi, mais il y a des économies de plans au point où ils reprennent les mêmes plans à 30 minutes d'intervalle, et où par exemple justement à la fin avec les 5 cyclones. En fait, ce sont les plans du 1 qui, quand il y a l'entraînement, c'est littéralement les plans du 1 avec un décor légèrement différent et un personnage en plus. Mais je suis persuadé que c'est les fichiers informatiques qu'ils ont gardés du 1 et qu'ils ont adapté là. Enfin, c'est fou.
Ouais, y a un vrai souci là-dessus. Mais dans l'ADN de ce film en général, je trouve, parce que autant que je ne sois pas plus attaché que ça au personnage de Kung Fu Panda, mais en fait, il y a un truc que tu ressens, mais que ce soit sur les méchants, que ce soit sur. Ils ont le skin des personnages. Ils ont le doublage des personnages, mais ce ne sont pas les personnages que tu as vus dans les films précédents.
Je vois ce que tu veux dire. en fait, il y a un peu le... C'est ce qu'on disait à la fin, un peu le côté No Way Home, en fait. On revoit d'anciens méchants, mais ils ne sont plus du tout comme ceux qu'on avait vus avant.
Ah, c'est quand même des gens qui ont voulu mortellement tuer Po. Le méchant du 2 a génocidé son peuple.
Ça. Et là, il fait... Oh, ça a réussi à me battre, donc. Vas-y, bravo.
Ils se mettent à genoux devant lui. Alors, admettons que ces personnages aient pu avoir une rédemption, c'est pas pour rentrer dans des grandes...
Oui, mais ça n'a pas été montré.
En fait, c'est qu'il y a une caractérisation qui a été faite dans les films précédents, et qui est juste en mode, si tu as vu justement les films précédents, c'est un vrai problème, parce que tu dis, c'est pas le personnage que je connais.
Ou alors, c'est développer un peu ça dans les séries, ce qui n'est pas impossible, j'en sais rien. Mais... auquel cas, tu vois, ils font comme Marvel et tout, et il faut voir tout. Il faut tout voir pour comprendre, et ça n'a pas de sens, tu vois, donc à un moment, non.
Oui, puis fondamentalement, c'est vraiment. C'est un reboot, quoi, parce que.
Oui.
On peut le voir vraiment comme un reboot, parce que il y a ce côté. En fait, pour moi, à la fin du 3, il était déjà devenu guide spirituel, en fait.
Ouais.
Parce que vraiment. Wei lui donne son bâton, il lui dit, tiens, vas-y,
et puis il disparaît, il meurt, donc.
Ouais, tiens, vas-y, fais chi avec les pandas. Parce que, tout le monde fait de la magie maintenant. Oui, c'est Magic Panda.
C'est ça.
C'est plus Magic Panda,
C'est exactement ça. Et puis, même là, genre, tu te dis, il y a plein d'incohérences, tu vois, même dans le scénario et tout. Et pareil, pour aller vite, mais. Typiquement, c'est ce qu'on disait, la méchante, elle n'est pas censée savoir se battre, sauf que un personnage dont je ne vais pas spoiler, mais en fait, sait se battre et on lui a appris d'elle. Du coup, elle sait forcément se battre. Je veux dire, tu ne peux pas avoir appris à ton élève à te battre si toi-même, tu ne sais pas te battre. Non. Tu vois, c'est genre si tu fais Karate Kid, mais que Jackie Chan, il ne sait pas se battre. À un moment, ça n'a pas de sens.
Ouais, c'est ça. Donc, début d'une nouvelle trilogie
compliquée,
et à quoi bon une nouvelle trilogie,
en fait,
quoi.
C'est juste beau
il y a des poncifs de mise en scène quand même,
voilà, c'est ça.
Les aplats de couleurs là où ça fait des flashs.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, au pire, oui. Dès parce qu'il faut savoir qu'on l'a vu genre il y a une semaine et demie, il sort aujourd'hui, mais nous on l'a vu il y a une semaine et demie.
Oui, après, les avant-premières
publiques. J'ai déjà oublié plein de choses, mais c'est assez hallucinant. C'est quand même fou, mais genre vraiment, c'est que vu et s'en fout. Enfin, vraiment, c'est vraiment ça. J'ai coché une liste et c'est tout.
Le film d'après était mieux.
Le film d'après était vraiment mieux, effectivement.
On n'a pas parlé, mais on aurait
c'est scandaleusement vôtre, sachez-le.
Une petite comédie anglaise sympathique. Mais oui. C'est dommage. Si c'est ce que DreamWorks prévoit. Parce que du coup, ça, en fait, c'est pas en soi une honte, en fait. C'est juste que c'est un.
Mais en fait, il faut arrêter les quatrièmes volets.
Ouais, c'est
mais vraiment. Parce que déjà, Shrek 4, c'était nul. Oui. Enfin, voilà, à un moment, il faut assumer.
Ouais, mais il y a un truc où là, c'est vraiment un DTV, quoi.
Oui,
mais c'est Kung Fu DTV Panda.
En fait, c'est pour ça, c'est vraiment la suite des séries, tu vois.
Ouais,
mais genre, ils l'ont mis au cinéma.
Voilà, et du coup, ça fait peur pour Shrek 5, quoi.
Ah bah oui, non, mais
parce que autant Shrek 5, j'y croyais pas trop, mais. J'avais l'espoir avec ce que le Chapeauté 2 nous a proposé. Ouais. Voilà, il y avait une idée. Je me dis, oh, si DreamWorks, ils s'éclatent comme ça. Parce qu'en fait, DreamWorks, ils peuvent faire du très bon comme du très mauvais. Ah oui, et non, là, ce Kung Fu Panda 4, c'est le pire de DreamWorks. Parce que DreamWorks, là où ils se démarquent de Disney, à mon sens, c'est dans leur mise en scène. Hmm. Et là, il n'y a rien.
Mais tu vois, enfin, je suis d'accord, mais je trouve ça quand même mieux personnellement que le dernier Disney.
Oui, non, mais, oui.
Non, mais tu, mais vois, là, non, mais tu parle, vois, si on...
Oui, mais Disney, ils sont plus bas.
Oui, non, mais je suis d'accord, mais genre, du coup, c'est pas bien. Mais oui. C'est pas non plus catastrophique. Oui, genre, oui, voilà. Vous attendez pas à genre une merde absolue. Non.
Wish, c'était bien pire que ça.
Voilà,
ah ouais, Wish. Ça. Ah oui, non, c'est Wish, ça, en fait.
C'est
un délire.
Donc, hein. C'est pour ça, genre, vous attendez pas à un niveau cataclysmique, mais juste vous attendez pas à même pas un bon film, quoi. Juste un film moyen.
Après, en vrai, je me dis pour. Mais après, là où ça peut marcher, c'est pour vraiment des jeunes, parce voilà, que.
C'est ce que j'allais
si
dire.
Si tu connais pas les anciens films.
T'as des petits cousins, t'as des enfants ou autres à emmener, bon, bah, allez. Voilà.
Si tu connais pas les anciens films, oh oui, c'est un départ à zéro. Hein.
Par rapport à Dune tout à l'heure, effectivement, là tu peux y aller.
C'est ah oui, grave. C'est un départ à zéro. Mon personnage de la renarde, il est un peu insup. Il est un peu oui, insupportable, totalement. Doublé par Awkwafina en VO. Mais c'est une caricature en fait, le personnage.
Ouais, tous les personnages, c'est une caricature, on dirait.
C'est vrai qu'ils sont. mais Po, c'est une parodie de Po, quoi. Oui, c'est un délire.
C'est ça. Non, mais vous l'avez compris, on n'a pas bien aimé le film.
Ah ouais, tu penses?
Mais peut-être que voilà, si vous avez des enfants, ça peut passer. Mais ceci dit, allez leur faire revoir la trilogie, voir ou revoir la trilogie, ça sera bien mieux.
Ouais, je pense que le premier a peut-être dû un peu vieillir.
Tu penses?
Bah en fait, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ça ne m'avait pas choqué. Mais la 3D parfois a un peu.
Ouais, ok.
Mais le premier a vraiment cette force qu'il y a des vraies chorégraphies de combat hyper impactantes.
Puis il y avait des vraies vannes, enfin, tu vois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais de ce que je me souviens.
Elle est un peu grosse.
Non mais évidemment, alors ça, on est totalement d'accord qu'il y a des vannes vraiment graveleuses, ça oui, c'est une autre époque, on va dire, et en soi, même là, il y a des moments où tu te dis, ça se voit, ils ont un peu polish, mais ils ont voulu aller sur la vanne de, mais non, on peut plus le faire, tu vois,
oui.
Donc bon, mais c'est évident avec le fait que voilà, t'as un gros panda machin, que bon, tu vas aller sur ce genre de vannes qui sont voilà. Moyennes, quoi.
C'est ça. Bon, ben voilà, on a fini de tabasser Kung Fu.
Bah oui, effectivement.
Voilà. Est-ce que, avant de partir, on ne ferait pas une petite reco culturelle?
As-tu une recommandation?
Ah ouais, j'en ai même deux, tiens.
Bah vas-y.
Alors, on va parler Japon.
Japon.
D'ailleurs, rip Akira Toriyama. Hein,
oui, c'est vrai. Voilà. Effectivement.
Je pense que toute la planète en a entendu parler. Hein,
effectivement, c'est sûr.
C'est marrant parce qu'il n'a jamais d'actu, ce monsieur, et il est mort 2 semaines avant la sortie de son jeu vidéo Sandland et de l'animé Sandland.
C'est vrai, il y a eu l'animé Sandland, ouais, j'ai
et le jeu vidéo. C'est trop bizarre.
C'est mauvais quoi, timing.
Mauvais timing. Blague à part. Ouais, moi, je vous conseille, il ne doit plus être en salle, mais le film Blue Giant, adapté.
Je crois qu'il passe encore, mais vraiment peu, quoi.
Voilà. Qui est un super petit condensé du premier arc de Blue Giant que j'ai pas lu, mais qu'on m'a. Moi, du coup, en ayant vu le film, j'ai bien apprécié. J'ai été voir demander quelques petites infos sur comment ça avait été traité au demeurant. Et voilà, c'est le premier arc de Blue Giant, mais qui se conclut comme un film à part entière. Les musiques sont très cool.
Juste apparemment la 3D un peu 2000, mais. 2000.
La 3D 2000, mais en fait, parce qu'ils font des choix d'économie, en fait. Okay. Parce que les moments où c'est en rotoscopie, où c'est vraiment des gens qui sont frais en mocap et tout, enfin en motion capture, ça déglingue. La caméra se balade dans tout le salon. Mais oui, il y a vraiment des moments où c'est des grosses économies de moyens. C'est bon, là, on n'a rien mis, les gars, démerdez-vous.
Je vois.
Mais voilà, c'est un très bon film d'animation. Je comprends pourquoi Annecy a eu son petit succès. C'est vraiment un shonen de musique, quoi. avec des gens qui vont se buter pour être les meilleurs jazzman du monde. Déjà du Japon, c'est pas mal. déjà de leur quartier. Parce que dans ce film-là, c'est plus à l'échelle du quartier, quand même. Mais voilà. Et deuxièmement, si vous aimez bien bouquiner, que vous avez bien aimé, vous aimez bien le manga Slam Dunk, et que vous avez vu le film The First Slam Dunk l'été dernier, qui était, lui, une méga claque visuelle, du coup, il y a le roadbook The First Slam Dunk The Source, qui est du coup littéralement la... un ensemble de planches et de correspondances entre les équipes du film et l'auteur du manga, qui a totalement supervisé le truc, parce que tout ce qu'il fait autour de Slam Dunk, il le supervise à 100% parce qu'il kiffe ça. Il avait fait des... pour vous donner un peu une idée du personnage, quand Slam Dunk s'était terminé, au Japon, il y a des gens n'aiment pas trop la fin de Slam Dunk, elle est un peu abrupte. Et dans une école abandonnée, il avait écrit un truc qui s'appelait One Shot... c'est un One Shot qui s'appelait Slam Dunk... 10 jours après, qui était écrit sur les murs de l'école, en fait. Et du coup, l'école était devenue un lieu de visite où les gens venaient voir les planches sur le mur de l'école. De ce que j'ai compris, c'était à peu près ça. Donc, c'est un peu un forcené du travail, et c'est super intéressant comme book pour voir tout le processus créatif et les échanges qu'il y a eu entre l'auteur et l'équipe d'animation du film, parce que c'est un film que je trouve qui est, en termes d'animation, qui est assez dantesque. Et moi qui suis pas très sport, du coup c'est quelque chose, la compétition et tout, ça m'atteint pas trop, pour ce que j'en sais, avoir vu 2-3 matchs de basket dans ma vie et tout en compétition, la fin du film te met vraiment dans un mood de match de basket, en fait. Il y a plus de musique, t'entends les petits couinements sur le sol, ça marche très très bien. Donc voilà pour mes recos culturels du Japon, l'artbook Slam Dunk, et d'aller jeter un petit coup d'œil à Blue Giant.
Eh bien moi aussi, j'ai deux recos. On va commencer par un petit film, j'en sais rien s'il est petit, mais un film pour changer, j'ai envie de dire. Mais c'est juste parce que là, on est vraiment dans l'actualité. Si vous écoutez ça mercredi ou avant la fin de la semaine, le 31 et le 1er, donc dimanche et lundi, il y a un film qui sort ou ressort, enfin en vrai il n'a jamais eu de sortie au cinéma, mais juste il est disponible en VOD ou en Blu-ray DVD un peu partout. Il sort au cinéma dans à peu près la plupart des pâtés en France, ça s'appelle Alienoid. Alors le speech est improbable, mais ça mélange voyage dans le temps, magie, robot, alien, voilà. Vous dites comme ça n'a aucun sens, c'est un camoulox. Voilà, c'est un film coréen. Et moi, perso, j'ai passé un super bon moment parce que ça assume totalement son côté divertissement. On pourrait se dire que tout ça ne fit pas ensemble, mais en fait, c'est bien trouvé. Ça se passe dans deux timelines différentes. J'avoue, ça pique un peu les yeux au niveau des effets spéciaux, surtout sur les robots à des moments. Mais franchement, voilà. Ça, en fait, c'est vraiment un peu comme les blockbusters indiens, c'est que ça assume pleinement son truc, ça y va à fond. C'est pas
Argyle, hein.
Exactement, c'est pas Argyle, tu vois. C'est pas un grand film non plus, hein, attention, mais juste, vous avez envie d'un bon divertissement de science-fiction / magie, allez-y, c'est cool, voilà, et c'est en salle exceptionnellement pour 2 jours, donc pourquoi pas. En plus, je crois qu'il est diffusé aussi en IMAX, en 4DX, machin. Donc voilà, foncez. Sachez juste que, parce que je le savais pas, il n'y a pas de fin, mais c'est parce que, c'est vraiment, il y a un cliffhanger à la fin. Mais le 2 sort en juillet, là, et il va arriver justement en France, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont remis au cinéma. Ça, c'était pour ma première roco, et ma deuxième roco est une série qui est en cours, dont les épisodes sortent un épisode par un épisode chaque semaine. Il s'agit de Shogun, diffusé sur Disney+.
Remake de l'ancienne série Shogun, du coup.
Effectivement. Et je trouve ça exceptionnel. Voilà, j'adore la série. Je trouve ça hyper bien écrit. Ça a l'air de vraiment coller au bouquin, parce que du coup, voilà, à la base, c'est un bouquin. Les personnages sont hyper intéressants. Ça confronte vraiment la culture japonaise avec la culture occidentale. Et il y a des vrais débats là-dessus, des vraies incompréhensions aussi, puisque tout le long, en fait, le personnage principal, en anglais, il me semble, il vient d'Angleterre. Et du coup, justement, tout le long, il ne peut pas communiquer avec les autres, il peut seulement communiquer avec une interprète qui est, elle, une sorte d'ancienne princesse, voilà, qui du coup, toutes les conversations se font à travers elle. Et d'ailleurs, ça donne des trucs hilarants parce que lui, il insulte tout le monde, mais genre vraiment, il insulte tout le monde. Et elle traduit ça en mode « Oh, il est juste en train de vous dire qu'il vous aime bien » ou genre, tu vois, que des choses comme ça. Et genre, ça donne des trucs lunaires, c'est hyper drôle. Et puis même, politiquement, etc., il y a des vrais enjeux. Et surtout, ce qui est trop cool, c'est que ce n'est qu'une saison, puisqu'en fait, c'est une mini-série, finalement. Et ça, c'est trop bien parce que, du coup, malgré que la série marche très bien, les showrunners ont dit non, nous on veut pas faire de suite, on aime beaucoup la fin du bouquin, du coup on veut que ça reste comme ça, donc c'est super cool, c'est sur Disney+, c'est genre je crois 12 ou 10 ou 12 épisodes, je sais plus, d'une heure. Et là, on doit être à l'épisode 6. Quoi. Voilà.
Oui, ils tiennent une. Disney Plus avec FX, ils tiennent un gros truc. Hein, vraiment, parce que c'est vraiment. Ça qui fait The Bear et tout.
Exactement.
Ils tiennent un gros truc hein, là-dessus. Hein.
Et c'est vraiment cool de faire ça, de proposer des trucs plus adultes en plus. Qui... Enfin, vraiment tout le côté studio, là, ou je sais plus comment ils l'appellent sur Disney Plus. Donc, ouais, ils ont vraiment un panel de choses plus adultes et tout sur Disney Plus. C'est pas mal de ce point de vue-là. Mm-hmm. J'espère qu'ils vont plus développer
X-Men 97 aussi.
Ouais, j'ai pas commencé.
Qui est cool aussi, plus ouais. Dans le côté mature et tout. Ils ont plein de bons trucs. Ok, bah écoute, merci pour les recos. Bah, tu recommandes les effets spéciaux du problème à trois corps aussi?
Ouais, totalement. Non, mais par contre, j'ai continué. J'en suis au 7e épisode et c'est vraiment cool en termes d'intrigue. Si on n'a pas lu le bouquin, juste. Vas-y, l'occidentalisation des choses. Bon. Et surtout, les blancs sauveurs du monde. Bon, voilà. Justement, t'en parlais tout à l'heure sur je sais plus quoi d'autre. Mais,
sur Dune, oui, ouais, c'est sûr. Ouais.
Mais non, il y a vraiment ce truc-là aussi. Bah, non, tu disais sur Atlantide. J'étais vraiment oui, mode, j'avais le problème à trois corps dans la tête. Mais bon.
Bah, c'est ça le truc. C'est que c'est censé être une, le problème à trois corps, tu vois. Parce que c'est une grand, enfin c'est un des grands romans de science-fiction chinois par un de leurs plus grands auteurs de SF.
Et du coup là il y a une série sur Netflix parce qu'on l'a pas dit du coup. Voilà.
Et en fait ils ont tout transposé en Occident dans l'adaptation.
Exactement. En fait il y a certaines parties qui se passent encore en Chine mais très peu.
Oui voilà. Du coup c'est un peu dommage.
Dommage. Avec des acteurs occidentaux évidemment. Voilà, ou alors des
les Chinois bankable de
voilà,
les per... ouais les descendants pas vraiment, descendants bankable, asiatiques mais... voilà, ouais qui genre il y a le mec qui fait Wong.
Oui, dans, par exemple, il n'y a
pas Michelle Yeoh qui a un rôle aussi.
Non, il n'y a pas Michelle. Elle okay. lui ressemble beaucoup, mais ce n'est pas Michelle Yeoh.
Ok. Bon, voilà. Bon, écoute, on a pas mal digressé sur la fin.
Oui.
Donc, voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Movie Dump. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle petite sélection de films. Et du coup, dans ce cas-là, allez voir Vampire Humaniste Cherche Suicidaire Consentant.
C'est bien, il a réussi à le dire du premier coup.
À la prochaine, salut.
À la prochaine.
Spider-Man died.
Neither can I.
Yeah,